Bonjour et bienvenue dans notre podcast des projets scientifiques intuitifs. Aujourd'hui, je réponds à la question « Peut-on agir sur la matière ou les individus par la méditation ?» Ou est-ce que cette pratique est purement personnelle, cloisonnée à notre corps et notre esprit ? C'est une question qui se pose lorsqu'on écoute des personnalités comme Greg Braden, qui prétend que la méditation peut agir sur la matière, les individus ou la Terre. Que lorsque des méditations collectives sont pratiquées, on observerait une diminution des crimes et délits, des viols, des meurtres dans le monde. Pour autant, on pourrait faire complètement confiance à ce que raconte Greg Braden, puisqu'il dit se baser sur des études scientifiques et des relevés précis. Mais si ce qu'il prétend est réel, alors, à notre échelle, nous devrions pouvoir observer ces mêmes phénomènes. En tout cas, c'est l'hypothèse que nous avons posée dans notre association des projets scientifiques intuitifs. Peut-on observer l'effet de la méditation autour de nous, de façon locale et de façon suffisamment puissante et marquée pour pouvoir l'observer sans ambiguïté, voire même, si possible, mesurer son efficacité? Pour vérifier cette hypothèse, j'ai réalisé une expérience que je vais vous raconter dans ce podcast. En premier lieu, si j'ai eu l'idée de réaliser cette expérience, c'est parce que les paroles de Greg Braden, lorsqu'il racontait ses expériences de méditation collective, ont eu une grande résonance chez moi. En effet, depuis quelques années, de façon cyclique, environ tous les 3-4 mois, j'observais qu'il y avait toujours une journée au cours de laquelle les gens, les interactions avec les gens, ces gens, les événements qui se déroulaient dans cette journée étaient parfaits. Ce que j'entends par parfait, c'est que toutes les personnes que je croisais dans cette journée se comportaient de façon charmante, de bonne humeur, sans aucun stress, les interactions se faisaient dans le calme, l'intelligence et la sérénité, et une chance à faire pâlir un joueur de roulette. Bref, j'avais pris l'habitude d'appeler ce type de journée la journée parfaite. Cette journée parfaite était un vrai contraste avec toutes les autres journées, si bien qu'il m'était possible de la repérer facilement et de noter à quelle fréquence elle apparaissait dans l'année. Bien sûr, j'ai commencé à réfléchir au pourquoi de l'apparition cyclique de cette journée parfaite. Intuitivement, je me suis demandé si l'accumulation de bonnes actions au cours des mois, l'accumulation de bonnes ondes, n'était pas le fruit de ces journées spéciales. Voilà pourquoi l'expérience de Greg Braden a autant résonné en moi. Mon idée était alors de réaliser un protocole de méditation pendant 3 jours et d'observer ce qui se passerait tout simplement. Est-ce que les journées que j'allais vivre à la suite de ces méditations allaient se rapprocher de ces journées parfaites, ou bien si elles allaient se dérouler de façon commune à toutes les autres journées? Je ne suis pas un as de la méditation, mais je suis capable, grâce à l'entraînement à la vision à distance, de rester concentré sur une même idée et de chasser les pensées parasites. Mon protocole de méditation était le suivant. Utiliser une musique de méditation durant environ 10 minutes. Cette musique est d'ailleurs disponible sur YouTube si vous tapez « Fréquence de l'amour 432 Hz » de Michel Gauthier. Ensuite, il me fallait trouver une idée ou un sentiment sur lequel me concentrer pendant ces 10 minutes. Pour moi, le sujet était tout trouvé avec ce type de vidéo. Pourquoi ne pas se concentrer sur le sentiment d'amour? À quel moment est-ce que j'ai fait cette méditation? Simplement avant de m'endormir. Mais en faisant attention de toujours rester conscient, de ne pas basculer dans le sommeil. Par contre, cette question s'est posée à moi. Comment obtenir une méditation suffisamment puissante pour avoir un effet visible dans le monde physique? Il me fallait générer une émotion d'amour artificiellement par la visualisation et trouver un moyen de décupler sa puissance. C'est là qu'une idée m'est venue. Après avoir lancé la musique de méditation, j'ai pensé à une chose qui pourrait me procurer ce sentiment d'amour. J'ai alors imaginé prendre ma fille dans mes bras en essayant d'avoir le maximum de ressenti, comme si je la prenais réellement dans mes bras. Il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que l'on imagine et ce que l'on fait dans le monde réel. Cette visualisation m'a donc permis de créer le sentiment d'amour que je souhaitais. Mais pour décupler cette sensation, j'ai réalisé une étape supplémentaire. Une fois ce sentiment créé artificiellement par méditation, je me suis concentré pour isoler ce sentiment, comme si je pouvais le rendre palpable. Puis j'ai imaginé multiplier sa puissance par 2. À ce moment-là, j'ai commencé à sentir comme un flux sortir de mon plexus. Je l'ai alors amplifié. J'ai multiplié sa puissance par 10. Là, j'ai senti directement l'amplification du flux émané de ma poitrine. Là, j'ai compris que quelque chose se passait. Tout en restant concentré, j'ai alors multiplié ce flux par 100. Et là, c'est ma compagne couchée à côté de moi qui a commencé à sentir une chaleur intense qui émanait de moi, sans que pour autant ma température corporelle n'ait augmenté. J'ai maintenu cette amplification jusqu'à la fin de la musique de méditation, puis une fois la visualisation stoppée, tout est revenu à la normale. Ma compagne était stupéfaite de ce qui venait de se passer, d'autant plus que je ne l'avais pas mise au courant de mon expérience. Il me restait donc théoriquement 2 séances de méditation supplémentaires pour espérer faire des observations. Je finis alors par m'endormir et me réveille le lendemain comme si de rien n'était. Une journée classique qui se prépare, à 100 à l'heure comme d'habitude. Il faut savoir qu'au moment où j'ai fait cette expérience, je travaillais à 3 km de mon lieu de domicile. Une courte distance au cours de laquelle il s'est passé pas mal de choses surprenantes. Premièrement, le voisin acariâtre qui a l'habitude de refermer la porte de chez lui au moment où je passe me dit bonjour en souriant et me souhaite une bonne journée. Je prends ensuite ma voiture et fais une 100 mètres pour sortir de ma résidence. Alors que je ne suis pas prioritaire pour m'engager sur la route principale, une voiture s'arrête pour me laisser passer, alors qu'il n'y avait personne d'autre sur la route. Elle était dégagée. La voiture aurait pu passer sans me laisser passer et je pouvais m'engager derrière sans aucun problème. Là, je continue ma route sinueuse entre les pâtés de maison et arrive à céder le passage. En général, à cet endroit, les voitures se laissent passer une sur deux. Et c'est exactement ce qui se passe devant moi sur les 6 ou 7 personnes qui me précèdent et que je peux voir. Sauf pour moi. On laisse passer la voiture devant moi qui s'engage comme les autres. Je m'attends alors à laisser passer la voiture qui venait de la gauche. Sauf que celle-ci refuse de passer et me fait signe qu'elle me laissait passer. De façon inattendue, cet automobiliste venait de laisser passer 2 voitures au lieu d'une seule. À ce moment-là, je commençais à me poser des questions et à comprendre ce qui était en train de se passer. J'avais le sourire aux lèvres et j'étais encore loin de me douter de la suite. Alors que je souriais seul dans ma voiture, une dame à laquelle je ne prêtais pas spécialement attention, qui passait sur le trottoir à côté, me rend mon sourire en me faisant un signe amical de la tête. Je continue ma route et arrive au niveau de l'entrée du parking de mon entreprise. Je suis sur un boulevard et l'entreprise se trouve sur la gauche. Je mets mon clignotant et me place sur la bande centrale, attendant que les voitures qui arrivent en face passent pour que je puisse m'engager. Là, à ma grande surprise, le conducteur de la première voiture me fait un signe de la main en me croisant pour s'excuser de passer. Je rappelle que je ne suis pas du tout prioritaire pour tourner. Reste un dernier véhicule, un fourgon de jardinier. Ce véhicule s'arrête en plein boulevard alors qu'il est prioritaire et me laisse passer. Je rappelle qu'habituellement, cela n'arrive jamais. Une fois dans les locaux de l'entreprise, la journée s'est bien déroulée, à la manière d'une journée parfaite. C'est-à-dire sereine, mais sans fait aussi marquant que lors de mon trajet en voiture. Alors que je pensais devoir reprendre mes méditations, il m'a semblé que l'expérience était concluante. Mais que pouvons-nous en penser? D'après la réflexion que j'ai eue, il semblerait que la méditation ait agi comme un chargeur d'une batterie ou d'un réservoir. Le sentiment d'amour que j'ai créé a généré un flux d'énergie qui n'a pas été perdu dans le vide, mais qui a vraisemblablement rempli un espace. Pour moi, la réaction des personnes me laisse penser que ce flux d'énergie m'a été redistribué au travers de toutes les personnes que j'ai croisées. En quelque sorte, les êtres humains pourraient être des vecteurs d'énergie ou d'émotion. Et leur réaction serait proportionnelle à l'énergie qui les traverserait et à la personnalité de la personne qui ferait que l'énergie retourne à l'envoyeur. Par exemple, l'énergie positive qui traverse un conducteur lambda l'amène à vous laisser passer. L'énergie qui traverserait, par exemple, un tueur l'amènerait peut-être à simplement vous ignorer. En tout cas, je pense qu'à la question peut-on agir sur la matière ou les individus par la méditation, ou est-ce que cette pratique est purement personnelle, cloisonnée à notre corps et notre esprit? Je peux répondre à titre personnel que la méditation influe bien sur les êtres humains et n'est pas cloisonnée à notre seule personne. J'espère que le récit de cette expérience vous aura plu, peut-être qu'elle vous inspirera pour réaliser d'autres expériences de ce type, et si c'est le cas, dites-le nous en commentaire de ce podcast. Je vous dis à une prochaine fois sur les podcasts des projets scientifiques intuitifs. À bientôt.